C'est une expérience que vous avez peut-être déjà vécue. Cette petite voix qui vous dit « Mais si, vas-y, tu verras, tu ne le regretteras pas ». Cette petite voix, vous la suivez, et au cours de cette sortie que vous ne vouliez pas faire, il vous arrive quelque chose que vous n'avez pas prévu. La rencontre de votre vie, un amour, une âme sœur, ou tout simplement, vous passez un bon moment. Cette sortie que vous ne vouliez pas faire vous a minima fait du bien, et peut-être même changé à jamais. Parce que vous avez écouté cette petite voix. Alors bien sûr, les plus sceptiques vous diront que c'est toujours facile, après coup, de l'évoquer, cette petite voix, que c'est le hasard. C'est sûrement vrai. Mais qu'importe, parce qu'avec cette petite voix, l'histoire est plus belle encore. On s'intéresse aujourd'hui dans Grand Bien vous fasse à ce merveilleux auquel on continue de croire dans un monde cartésien. Pourquoi nous fait-il du bien? Pourquoi laisse-t-on place à une forme d'irrationnel? Croire à autre chose que le Père Noël, mais croire quand même, sans nier pour autant les pièges de l'obscurantisme. On se posera toutes ces questions aujourd'hui avec vous, bien sûr. Hein. Dites-nous si, par exemple, vous avez un ange gardien ou si vous enviez vos enfants qui, eux, n'ont aucun problème à plonger dans leurs mondes imaginaires. 01 45 24 7000 ou sur l'appli de France Inter. Vous pouvez aussi nous laisser des notes vocales. Bonjour, Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Ma vie de parent, c'est la chronique du mercredi et les parents, à deux jours du 24 décembre, pensent autant, presque autant, que leurs enfants à ce gros bonhomme tout rouge avec une grande barbe blanche.
Exactement, on va s'attaquer à ce sujet très très lourd.
À cette montagne, vous voulez dire. Ce sera un peu après 10h30 tout à l'heure. Merci d'être avec nous, grand bien vous fasse. C'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter, Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse.
Et trois invités ce matin pour parler de ces mondes imaginaires, de cet invisible. Bonjour Vincent Joly.
Bonjour.
Vous êtes psychologue pour enfants. Bonjour Nicolas Nedelec.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Grande Oreille, une revue entièrement consacrée aux contes. Et bonjour Marie de Wenzel.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute et écrivaine et vous venez de publier Vivre avec l'invisible aux éditions Robert Laffont. Et dans le livre, vous commencez, alors c'est pas vraiment la première page, mais enfin très rapidement, par une forme de mise en garde. Vous écrivez, si nous avons une affinité avec l'invisible, cette affinité n'a rien de surnaturel ni d'ésotérique, comme le pensent trop souvent les rationalistes. Il a faux cette mise en garde ?
Oui, parce que beaucoup de gens qui m'ont parlé, mon livre est sur le lien que les gens ont avec l'invisible, m'ont raconté des histoires, parfois des histoires très étonnantes, hein, mais ils m'ont dit « je n'ose pas le raconter parce que nous sommes dans un monde dans lequel on vous juge, on pense que vous êtes un peu fou, que vous fabulez, que vous avez une imagination débordante, on ne vous croit pas ». Et ils m'ont raconté ces histoires parce qu'ils savaient que j'écrivais un livre sur le lien avec l'invisible. Parce que c'est aussi chacun son invisible.
C'est chacun son lien, chacun son invisible.
Oui, oui, parce que ça recouvre tout ce dont vous parlez depuis le début de l'émission, c'est-à-dire la petite voix intérieure, l'intuition, les prémonitions, les mystérieuses coïncidences qu'on appelle les synchronicités, le lien avec ce que j'ai appelé dans le livre notre bande d'invisibles. Hein. On a des morts auxquels on parle, qui nous protègent, on peut avoir un saint, on peut avoir un ange gardien. Donc c'est tout cela. Et puis il y a aussi l'inspiration des artistes. Hein, ils ne savent pas d'où ça vient, l'idée d'un roman, d'où vient le... C'est de l'invisible, tout ça, puis les rêves.
Ce qu'on appelait la muse.
Et puis les rêves, bien sûr. Quand nous rêvons, nous plongeons dans ce monde de l'invisible.
Et dans l'inconscient, et je rappelle que vous êtes psychanalyste. Alors, on peut donc être, en tout cas, connecté, avoir un lien avec ce monde de l'invisible, que je pense que nous sommes nombreux à avoir, sans pour autant être fou. Voilà. Rassurez-nous, tout va bien.
Absolument, c'est naturel et pas surnaturel, normal et pas paranormal. Ça arrive plus ou moins, hein, pas toujours. Mais il faut considérer ça comme faisant partie de l'humain. Et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, nous avons une petite part d'irrationalité en nous qui est tout à fait, je dirais, normale.
Et qui peut faire du bien aussi. Oui. J'en parlais également en introduction, hein, cette petite voix qui vous pousse. Alors vous la rangez dans ce que vous appelez, Marie de Wenzel, le monde invisible. Mais il se trouve que dans les contes, on a toujours, au moins souvent en tout cas, ce héros qui est à la croisée des chemins et qu'une petite voix pousse précisément, qui lui dit « va plutôt là-bas plutôt que là hein. ». Les contes, est-ce que c'est pas, Nicolas Nedelec, finalement l'expression écrite de ce monde invisible dont on parle ?
Oui, il est certain que les contes expriment
sont une manière de façon symbolique de faire apparaître ce monde invisible qui est une partie de nous-mêmes. Mais je dirais, par rapport à ce que vous venez d'indiquer au sujet de l'écrit, que ce sont des contes principalement oraux. Oui. Certes, on prend l'habitude justement dans
une
société actuelle.
Vous les publiez dans une revue qui s'appelle La Grande Oreille.
Ils sont publiés dans La Grande Oreille, ils sont mis à l'écrit. Mais dans La Grande Oreille, on met en avant principalement les contes de tradition orale. Parce que justement, ces contes sont une mémoire. Une mémoire qui vient de la nuit des temps, et c'est ça qui fait tout leur intérêt. C'est un peu comme un caillou qui aurait été poli par la mer au fil des ans. Là, vous avez une matière brute qui date du début de l'humanité et qui a été polie temps après temps, étape après étape, qui est passée par tous les chemins possibles, qui a passé au-delà des famines, des guerres, des difficultés, et ce sont des récits qui sont venus jusqu'aujourd'hui, qui continuent de nous parler, et donc précisément parce qu'ils continuent de nous parler et qu'ils ont passé l'épreuve du temps, ils contiennent quelque chose de mystérieux qui nous interroge et qui est justement, précisément, dans le domaine de l'invisible.
C'est comme ça que vous l'expliquez, cette durée de vie, si on peut dire ça comme ça pour un conte, cette durée de vie du conte, parce que certains, en effet, se racontent, sont des héritages, en tout cas, d'un moment où l'écrit n'existait pas encore.
Mais oui, je crois que c'est ça qui est essentiel. C'est qu'on est avec les contes dans le temps long. Et c'est ce qui peut nous apporter beaucoup de bienfaits aujourd'hui. Ce sont des récits qui ont dépassé les époques et qui sont universels, qui ont un caractère universel, qui non seulement dépasse les époques et qui dépasse également les frontières géographiques. Ce sont des récits qui ont été transmis par les migrations humaines sur la planète et qui sont, je dirais très simplement, éminemment humains, mais pas seulement, ils sont également des objets que l'on peut considérer à l'extérieur de soi, et là il y aurait beaucoup à dire là-dessus, puisque comme ils nous parlent, mais qu'ils sont en même temps à l'extérieur de nous, comme si c'était des éléments qui avaient leur propre vie en eux-mêmes, eh bien on peut les considérer, les laisser nous parler, nous dire des choses, et se laisser toucher par leurs paroles.
Et des résonances qui évoluent aussi au fur et à mesure que nous-mêmes évoluons avec les contes et qu'on peut relire en comprenant autre chose, ce qui fait aussi la magie de ces contes. Oui. Alors, si la rationalité adulte joue et fait qu'on peut s'interroger sur, voilà, si on se met à croire ou à parler à son ami imaginaire à 40 ans, 50 ans ou 60 ans, les adultes, évidemment, freinent un peu des quatre fers dès que ça revient. En revanche, les enfants, eux, n'ont aucun problème avec ce monde imaginaire, Vincent Joly, si pour enfants.
Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que jusqu'à 6 ans, les enfants baignent dans ce rapport à l'imaginaire, avec tout ce que ça a d'un rapport au monde qui est différent, spécifique. Donc avec une grande centration sur soi, c'est-à-dire qu'on va penser que on a un effet direct sur le monde qui nous entoure. Ce qui peut avoir des côtés très rassurants, ce qui peut avoir des côtés angoissants aussi, puisque typiquement, et ça en psychothérapie on le voit souvent, c'est-à-dire que je ne sais pas, un parent qui est déprimé ou un parent qui a une maladie, l'enfant spontanément il va se dire j'ai pensé du mal de ma mère hier, aujourd'hui elle est malade, il est évident que le lien est évident, c'est moi qui ai causé sa maladie, donc ça peut générer de l'angoisse, mais en même temps c'est là où il y a deux faces, et c'est relativement complexe. C'est aussi un rapport au monde qui est très riche et qu'on va perdre souvent avec l'âge.
Avec l'âge, oui.
Oui, moi je suis très surpris, très frappé du fait que dans les thérapies d'enfants, jusqu'à, disons, 10-11 ans, ils jouent et ils plongent le thérapeute dans ce rapport à l'imaginaire, etc. Et puis, arrivé en, disons, sixième, cinquième, il y a quelque chose qui se resserre, qui se normalise, disons, et ils vont plus oser jouer. Donc, on peut plus faire la pâte à modeler, on peut plus jouer au Playmobil, etc., etc. Et ils vont essayer de parler, de décrire leur journée. Et c'est compliqué, le processus thérapeutique est souvent mis en difficulté à cet âge-là parce qu'il y a ce rapport-là au monde qui devient plus difficile, en fait.
Vous travaillez, Marie de Henzel, alors non pas avec les enfants, même si ça vous est arrivé, mais beaucoup avec les personnes âgées. On connaît votre travail notamment dans les EHPAD ou pour les personnes en fin de vie. Et vous avez fait ce constat que les enfants, comme les personnes âgées, ont un rapport plus immédiat avec ce que vous appelez l'invisible.
Oui, parce qu'il y a une porosité entre le monde visible et invisible au début de la vie. Hein. Les enfants parlent de leur savoir du dedans. J'aime beaucoup cette expression. Hein. Ils savent des choses qu'effectivement, ils sont proches de l'inconscient. Enfin, beaucoup plus proches de l'inconscient que nous ne le sommes, puisque en nous éloignant, comme ça vient d'être dit, nous entrons dans un monde plus rationnel. Donc, nous éloignons de ce sixième sens aussi que les enfants ont et que nous avons tous eu au début de notre vie. Hein. Et puis, à la fin, quand on devient plus fragile, plus vulnérable, que le monde se rétrécit, on observe effectivement un retour à cette porosité, je dirais. Et même j'ai vu dans les chambres puisque j'ai travaillé comme psychologue pendant 10 ans en soins palliatifs, j'ai eu quelquefois des patients mourants qui me disaient « je vois dans la chambre, mon père ou ma mère sont là ». Et c'était des gens qui n'étaient absolument pas psychiatrisés, hein, mais ils les voyaient. Hein, et là, il y avait quelque chose qui était juste, ils étaient à quelques jours de leur mort. Hein, et donc, on voit bien, effectivement, qu'il y a cette grande, je dirais, période dans laquelle, entre, comme vous le disiez, peut-être 6 ans, et puis les tout derniers moments, on se coupe de ce savoir du dedans. Hein, sauf à aller, je dirais, s'interroger à travers les rêves sur ce que nous savons et qui est cette mémoire du temps, hein, puisque dans notre inconscient nous avons la mémoire du monde, hein, puisque je suis
psychanalyste jungienne.
Oui, mais c'est très important. Nous avons l'inconscient collectif, l'inconscient personnel, familial, collectif. Et vous le disiez, la mémoire du monde est en nous. Les enfants en sont proches. C'est pour ça qu'ils sont si sensibles aux contes, parce qu'effectivement, les contes leur montrent comment se sortir des difficultés, comment c'est un apprentissage de la vie, hein, bien sûr. Les personnes âgées, finalement, reviennent dans cet espace, je dirais, très particulier. Et peut-être aussi qu'on pourrait mieux comprendre la maladie d'Alzheimer, hein, dans laquelle on oublie finalement, on se réfugie, c'est une sorte de refuge. Hein. On sort je dirais, du monde tel qu'il est, du réel, hein, pour plonger dans autre chose. Et je pense qu'on n'a pas fini peut-être de découvrir ce qui se passe à ce moment-là.
Alors, je voudrais vous faire écouter la voix de François Mitterrand, que vous avez bien connu, lors de ses derniers vœux présentés aux Français en tant que président de la République. C'était le 31 décembre 1994.
Mes chers compatriotes, l'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai, le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Je forme ce soir des vœux pour vous tous. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année. Et longue vie, vive la République, vive la France.
Alors, on peut être évidemment pour, contre François Mitterrand, mais c'est un homme de pouvoir plutôt rationnel et qui, malgré tout, fait appel à ses forces de l'esprit. Qu'est-ce que c'est ces forces de l'esprit? Quelles sont ces forces de l'esprit auxquelles Mitterrand se réfère lors de ses derniers vœux?
Oui, alors il faut dire que j'ai parlé pendant 12 ans avec lui de cela, des forces de l'esprit et de tout ce qui concernait. Il savait qu'il n'était pas guérissable, hein, qu'il avait une maladie, nous avons beaucoup parlé de la mort, nous avons beaucoup parlé de l'invisible, justement. Et il me disait qu'il avait un sixième sens très fort quand il était enfant, et dont il s'était un petit peu éloigné, mais qu'il conservait puisqu'il était extrêmement sensible aux lieux, à l'énergie des lieux, parce que là aussi, ça fait partie de l'invisible, hein, l'énergie des lieux, l'énergie des gens. Il sentait les gens, Il avait une sorte d'intuition de qui était en face de lui. Hein. Il était les forces de l'esprit, c'était aussi ce qu'il. Alors lui, il se disait pas croyant dans le sens dogmatique, hein, mais il disait en mettant sa main sur son cœur, ici je sens. Je ne crois pas, je sens. Et ça, c'est un. Il me disait qu'il était plus proche des mystiques. Hein, que bien sûr que et parce que le mystique est quelqu'un qui sent et l'invisible c'est très intéressant parce que ça pose la question de la perception. En fait, nous sommes des êtres de perception. Hein, pas nous sommes pas que des êtres
nous sommes
pensants.
Aussi des êtres cérébraux.
Oui, mais en même temps de perception et nous avons peu développé nos perceptions alors que d'autres traditions ont encore gardé, hein, par exemple l'Afrique. En Afrique, les gens sont beaucoup plus proches de ce qu'ils sentent. Hein. Nous l'avons un peu perdu.
Gwenaëlle, voulez-vous y réagir ?
Oui, je crois que c'est très beau de réentendre cette voix quand même. C'est vrai que je crois que tout ce qui est autour de la foi, de l'imaginaire, sont des mots parfois qui sont durs à entendre dans cette société-là. La question de la foi est très vite mise de côté comme une sorte de chose un peu des temps anciens, un peu arriérée. Mais je crois que c'est surtout toute cette recherche du lien à autre que soi. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on ne peut pas se suffire. Le monde, notre monde, notre vie ne peut pas se suffire. On peut pas se suffire tout seul. Il faut qu'on aille quelque chose, aller chercher quelque chose qui est au-delà de nous. Donc cet au-delà de nous, on voit bien, beaucoup vont aller le chercher dans le lien à la nature, actuellement. On va aller le chercher effectivement dans le lien aux ancêtres. Même les gens les plus rationnels ont eu à un moment donné des choses comme ça dont ils osent pas trop dire le nom, mais qui les dépassent. Et je crois que c'est cette notion de se dépasser, aller en dehors de soi.
En tout cas, la plupart des sondages confortent, hein, à la fois tout ce que vous venez de dire, Marie de Wenzel et vous aussi, Gwenaëlle Boulet, ça montre qu'une majorité des Français croient en une forme d'inexpliqué, Nicolas Nedelec, Vincent Joly.
Oui, oui, oui. Et à l'inverse, on voit bien chez des esprits très rationnels, et par exemple dans des fonctionnements un peu obsessionnels, les fonctionnements obsessionnels, c'est des fonctionnements plutôt du côté de la rationalité, du cartésianisme, etc. Or, les troubles obsessionnels sont des troubles très honteux, très cachés, très secrets, mais on voit bien comment, dans le trouble obsessionnel, il y a quelque chose d'une croyance dans la toute-puissance de l'esprit. Dans le trouble obsessionnel, on va par exemple faire des rituels de comptage pour conjurer des mauvais sorts qu'on pourrait invoquer de soi-même, etc., etc. Et donc on voit bien que même dans des fonctionnements très rationnels, très cartésiens, où on va essayer de mettre des digues par rapport à ce monde de l'invisible, de l'inexplicable dont vous parliez tout à l'heure, même ces digues-là, eh bien, elles suffisent pas et on risque d'avoir une sorte de maladie des digues qui serait le trouble obsessionnel.
Nicolas Nedelec.
Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que on a tendance à dire qu'on baigne dans le rationnel, qu'on met le rationnel en avant. Alors, certes, depuis les Lumières, c'est le rationnel qu'on met en avant. Mais tout de même, on peut s'interroger, par exemple, dans la politique, on a l'impression parfois que nous baignons dans l'irrationnel. Et puis, si on s'interroge aussi à propos des scientifiques eux-mêmes, par exemple Schrödinger, qui est un exemple même de l'esprit rationnel, a écrit dans un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?»« Nous avons besoin de plus que les lois physiques pour expliquer la vie. » C'était sa conclusion. Donc, voilà, je crois qu'il faut admettre que c'est une part de nous-mêmes. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on l'utilise ? Et là, je crois que les récits anciens, les mythes et les contes de tradition orale ont beaucoup de choses à nous dire puisqu'ils utilisent cette matière-là et ça parle à chacun.
Les mondes invisibles aujourd'hui dans Grand Bien vous fasse. Et on attend toujours vos appels, vos réactions 01 45 24 7000 ou bien sur l'appli de France Inter.
C'est pour toi, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi, si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher, faire des comparaisons, j'ai un cœur qui sait, pris ton nom. Et toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. C'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais plus pourquoi.
Mon amour, mon ami, la Marie, la forêt, toute la programmation musicale est à retrouver sur le site de l'émission.
Grand bien vous fasse, Thomas Chauvineau, sur France Inter.
Et trois invités pour parler aujourd'hui de l'invisible, de l'imaginaire qui nous entoure. Vincent Joly, qui est psychologue pour enfants, Nicolas Nedelec, qui est rédacteur en chef de la revue Grande Oreille, une revue entièrement consacrée aux contes, et Marie Dehenzel, qui est psychothérapeute et écrivaine. Dans le livre que vous avez écrit récemment, Vivre avec l'invisible, Marie Dehenzel, vous dites, dans ce livre, je n'affirme pas, je n'essaie pas de démontrer quoi que ce soit, je constate seulement que nous sommes nombreux à vivre ce lien. C'est-à-dire qu'il ne s'explique pas.
Non, ça reste mystérieux, hein, mais c'est une expérience. Voilà. Moi, je me suis intéressée à l'expérience. J'essaye pas de prouver quoi que ce soit. J'en suis tout à fait incapable. Je n'essaye pas non plus d'expliquer. Je dis voilà, la plupart des humains ont un lien avec l'invisible, un jour ou l'autre, et certains plus que d'autres. Voilà. Et parmi ces, dans cette expérience, par exemple, il y a une, il y a cette, ce que je trouve très intéressant, c'est ce rapport aux morts. Parce que les morts, en fait, ils ne sont plus dans le champ du visible. Mais ce sont des invisibles, mais qui sont très présents. Ils sont dans notre esprit, ils sont dans notre cœur. Et on le voit bien aujourd'hui avec ces deuils très compliqués que beaucoup d'entre nous ont à faire puisqu'ils n'ont pas pu dire au revoir. Vous savez que pendant le grand confinement, il y a à peu près 100 000 familles qui n'ont pas pu dire au revoir à un proche, qui sont dans des deuils ou qui disent que les fantômes sont, ils sont envahis par des fantômes. Les fantômes, c'est quoi? C'est un mort qui revient dans la pensée ou dans les rêves, ou dans les cauchemars, parce qu'on n'a pas pu justement dire au revoir, parce qu'on n'a pas pu effectuer les rites qui sont importants. Et donc, c'est très important de parler avec ce fantôme, avec ce mort, de lui parler, de lui demander, de lui dire ce qu'on aurait aimé lui dire ou faire, et puis même de lui demander de l'aide.
Et de ne pas l'expliquer. Un peu comme le truc de magicien, c'est... finalement, qu'il ne faut pas expliquer parce que le mystère se désépaissit et ça ne fonctionne plus.
Oui, les gens, d'ailleurs, ne cherchent pas à expliquer. C'est naturel, en fait.
Ça me fait penser à cette anecdote, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est deux écrivains, André Breton et Roger Caillois, qui sont en train de s'émerveiller parce qu'ils découvrent des poissauteurs. Ils sont dans un bar à Paris et l'un d'eux, Roger Caillois, sort son couteau pour ouvrir le poissauteur, pour savoir comment ça marche. Et André Breton lui dit, mais surtout pas, malheureux. On n'a pas envie de savoir comment ça marche. On n'a pas envie, on risquerait d'être déçu. Et il y a un peu ce fonctionnement-là aussi chez les enfants, Vincent Joly, précisément à cette époque de l'année où il y a un petit bonhomme qui va passer sous un sapin, c'est qu'on n'a pas toujours envie de savoir, on est déçu quand on sait.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la question du Père Noël qui vient là... Alors je ne trahirai pas le secret à l'antenne. Hein. Je ne saurais pas me prononcer sur le fait qu'il existe ou non. Hein. Mais il y a des parents qui, par exemple, se disent ah mais qu'est-ce qu'on fait si on fait croire à nos enfants que le Père Noël existe? Est-ce que finalement on ne leur fait pas du mal? Est-ce qu'on ne leur transmet pas une fausse croyance? Et est-ce qu'on ne va pas, je ne sais pas moi, les mettre en danger dans leur rapport au savoir, aux connaissances, etc. Alors que non, je ne pense pas du tout. Enfin, après, on n'est pas, chacun est libre de se positionner comme il le souhaite par rapport à cette question-là. Mais y a une chose qui est sûre, c'est que de faire croire, de partager une croyance, là, une croyance, pour le coup, qu'on sait,
qu'on sait ou pas. Voilà.
Débrouillez-vous. partager cette croyance-là, de toute façon, ça va avoir de la valeur, ça va avoir du sens et ça va permettre de connecter quelque chose dans la famille et là, la société pour cet événement de fin d'année.
Et bien justement, puisqu'on parle de ce bonhomme rouge et de l'embarras des parents, c'est le moment de retrouver ma vie de parent. C'est votre chronique, Gwenaëlle Boulay, rédactrice en chef de Pomme d'Api.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Et vous avez décidé, merde, de polémiquer, Gwenaëlle.
Et oui, Thomas, chers auditeurs, vous commencez à me connaître un petit peu et à savoir que ma vie de parent est une chronique qui tape dans le dur. Hein. Ici, on n'a pas peur des polémiques, pas peur de remuer ce qui fait mal dans les familles. Et donc, en ce mercredi 22 décembre, j'ai décidé de m'attaquer au tabou des tabous, au sujet ô combien clivant, pardon, à savoir... Non, pas le vaccin, je suis pas non plus kamikaze, mais faut-il, oui
ou
non...
Vous avez Koh-Lanta aussi, y a-t-il eu de la triche ou pas?
Ah ouais,
ça,
ouais,
c'est
mince,
clivant.
J'aurais dû le mettre. Faut-il, oui ou non, faire croire aux... Bon alors là, si vous avez des jeunes enfants Père Noël friendly autour de vous, c'est le moment de les éloigner ou d'éteindre votre poste pour 3 minutes.
Non, vous gardez le poste allumé, vous éloignez les enfants. On reste à l'écoute de France Inter. Donc, pour ou contre le Père Noël, si je résume bien.
Ouais, tout à fait. Non, parce qu'aujourd'hui, quel que soit le sujet, hein, c'est important d'avoir un avis. Là où il y a 50 ans, donner le sein ou le biberon, savoir lire à 4 ou à 8 ans était des non-sujets, aujourd'hui, chaque petite facette de l'enfance est l'occasion de s'ouvrir un petit débat. Et notre cher Père Noël n'y échappe pas. Alors, pour vous faire gagner un peu de temps et vous aider d'emblée à savoir dans quel camp vous êtes, je vous ai concocté un petit quiz.
Donc on commence par le contre ?
Allez, on y va pour les contres. Oui, donc,
alors, c'est parti.
Écoutez bien attentivement et si vous vous sentez d'accord, ne serait-ce qu'avec une seule de ces propositions, c'est qu'il y a de grandes chances que vous ne soyez pas un ami du Père Noël. Alors on commence. Cas numéro 1. Noël est une fête chrétienne, vous êtes musulman, juif, bouddhiste, pratiquant, même pas la peine d'en parler. Ce soir-là, vous irez voir le dernier Spider-Man au cinéma en famille et les cadeaux, ce sera pour une prochaine fois. Cas numéro 2, vous êtes chrétien et Noël, c'est la naissance du petit Jésus. Il est né le divin enfant, donc pas question qu'un vieux barbu venu d'on ne sait où vienne détourner le sens de la crèche. Hein. Cas numéro 3, vous êtes anticapitaliste et n'en pouvez plus de cette fête de surconsommation. Donc Noël est l'opium du peuple des enfants, pas question d'en être les complices. Cas numéro 4, vous avez décidé de faire de l'esprit critique le point cardinal de votre éducation. Vous n'allez quand même pas laisser ruiner tous vos efforts par un type censé voler dans les airs avec un traîneau tiré par des rennes à grelots. Hein. Cas numéro 5, alors là, petit besoin de reconnaissance, c'est quand même vous qui offrez les cadeaux, donc il n'y a pas de raison que ce soit un autre qui soit remercié à votre place. Cas numéro 6, vous ne vous êtes jamais remis de jour où vous avez appris que tu sais qui n'existait pas. Et donc, pas question d'imposer ce traumatisme à vos enfants. Voilà donc schématiquement pour le camp des contres.
Et alors, pour les pour maintenant ?
Pour les cours, alors qu'est-ce qu'on a ? On a différents arguments possibles et puis qui sont souvent très compatibles. Hein. Alors, un, malgré les preuves qu'on vous a mis sous le nez, vous y croyez toujours. Cas numéro 2, vous êtes très à l'aise avec les traditions. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. 3, vous êtes chrétien, mais Jésus et le Père Noël, finalement, c'est assez compatible. Hein. Faudra juste bien négocier le moment où vous aurez avoué que, ok, le Père Noël n'existe pas, mais Jésus, c'est pas pareil. Bon, lui non plus, on le voit pas, mais bon, là, je vous laisse complètement gérer le petit passage. 4, vous êtes anticapitaliste ou écolo, mais ça tombe bien, le Père Noël aussi. Donc, il a choisi de jolis cadeaux qui ne polluent pas la planète. Ses lutins les ont même emballés dans de jolis furoshiki en tissu réutilisables l'an prochain. N'est-ce pas, Thomas ?
Ben oui, il faut.
5, pour rien au monde, vous ne priveriez vos chérubins de l'excitation que vous avez vous-même vécue enfant en écrivant cette lettre dans laquelle vous projetiez tous vos rêves. En imaginant des soirées entières, ce drôle de village peuplé de lutins et de rennes, caché on ne sait où dans un pays de neige et de froid. Et vous ne les priveriez pas non plus de cet instant magique où vous découvriez tout à coup, sous le sapin, tous ces cadeaux, cherchiez par la fenêtre les traces de cette venue si furtive. Voilà. Alors, je sais pas vous, Thomas, mais moi, après avoir fait ce quiz, je dois dire que je suis très, très, très nettement dans la team du Père Noël.
Ça s'est entendu. Surtout oui. Au moment du point 5.
Mais oui, pour moi, le Père Noël est juste un parfait cocktail de tradition, de rêve, de magie, d'imaginaire, de gratuité du don et de merveilleux. Et dire que dans 2 jours, en famille, nous allons peut-être enfin pouvoir le rencontrer, avec un peu de chance.
Peut-être, ou pas, vous verrez. Mais en tout cas, vous nous direz si jamais vous le croisez chez vous.
Évidemment.
Ça m'intéresse évidemment. D'avoir ce scoop. Merci Gwenaëlle Boulet, votre chronique est à retrouver sur le site de l'émission. Et c'est vrai, Vincent Joly, vous avez commencé à le dire, mais pourquoi finalement raconter des histoires aux enfants, c'est important?
Oui, oui, je suis désolé, j'ai réagi à votre chronique avant.
C'était fait exprès, tout va bien.
Ça va. Oui, je pense que c'est très important. C'est d'ailleurs une des choses qu'on apprend aux enfants qui n'y arrivent plus en psychothérapie, c'est-à-dire à se raconter des histoires, à écouter des histoires, à partager des récits, parce que finalement, notre vie humaine, elle est baignée de récits, baignée d'imaginaires, et pas seulement, comment dire, et n'est pas seulement une confrontation à la réalité concrète, matérielle et rigide du monde. Sinon, c'est trop angoissant.
Nous sommes au téléphone avec Claire. Bonjour Claire.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez pour nous raconter votre petite voix à vous.
Oui, lorsque ce matin vous avez posé cette question, tout de suite m'est revenu quelque chose qui a été il y a 25 ans comme une pulsion de vie où j'ai écouté une petite voix intérieure qui me disait « Oui, j'ai déjà une petite fille, Clémentine, mais pour être entière, pour avoir ma deuxième main, comme on a un bras et il faut avoir l'autre pour être entière, il faut absolument que j'adopte un enfant. » Et j'avais une maladie grave et les médecins me disaient « C'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. » Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et ça a été 7 ans de combat. Mais aujourd'hui, je peux dire, j'ai bien fait d'écouter cette petite voix intérieure qui a fait qu'on a adopté Cécile, qui est un rayon de soleil et qui fait que j'ai pu me battre contre cette maladie. J'ai voulu me battre pour mes enfants et pour elle. Et je suis vivante miraculeusement. Et grâce à cette petite voix intérieure, j'ai suivi mes médicaments qui étaient lourds. Et je suis vivante et merci à cette petite voix intérieure qui était une pulsion de vie. Et c'est aussi grâce à mes parents qui m'ont toujours, comme vous l'aviez dit, donné de l'imagination, croire en soi, aimer, être aimé par ses parents, ça m'a donné une énorme force. Et comme vous le disiez aussi, raconter des histoires, savoir s'émerveiller devant la nature. Il se trouve qu'ils étaient croyants, mais pas pratiquants du tout. Mmh. Et toute petite, je voulais tout le temps aller à l'église et croire en quelque chose. Et j'ai voulu croire en ce but d'être entière en adoptant un deuxième enfant.
Et cette petite voix, elle se manifeste toujours aujourd'hui?
Oui, oui. Et j'avais une grand-mère qui avait une petite voix comme ça, mais il suffit de l'écouter. Et quelquefois, je dis des amis, c'est comme une toiture. Soit on a un toit en paille et l'eau passe à travers, et on laisse cette petite voix parler, où on est trop cartésien comme des adultes et on se laisse garder comme des enfants, on laisse la pluie passer et les idées passer, ou on stoppe tout parce qu'on se dit trop cartésien parce qu'adulte et la pluie glisse sur une tuile. Et je pense que toute votre émission est passionnante parce que ça a bien résonné en moi pour que les gens entendent ce que beaucoup pensent comme bizarre, mais c'est pas bizarre du tout.
Mais merci Claire de votre appel et un peu de votre poésie aussi, cette métaphore du toit était très jolie. Nicolas Nedelec, ça vous a donné envie de réagir?
Oui, je trouvais très beau ce témoignage et au fond, ce que nous dit cette auditrice, c'est que donc elle suit cette voie intérieure, elle poursuit, elle avance sur le chemin avec son idée. Et on retrouve là aussi le héros du conte qui est le cadet, le petit, le moins que rien quoi finalement, mais qui avance et obstacle après obstacle finit par les vaincre et le conte se termine toujours bien. Donc il est cette petite voix aussi d'espérance qui nous porte et qui nous amène à continuer.
Marie de Henzel, d'ailleurs dans le conte vous en parlez dans
oui,
votre
justement.
Livre, il y a une jeune femme que vous connaissez qui s'appelle Alix qui soigne avec les contes.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il faut. Un des buts de mon livre, c'est de dire aux gens, vous avez une intuition, hein, vous avez une petite voix intérieure, écoutez-la et suivez-la, faites-vous confiance. Hein, ça a été dit d'ailleurs, le mot confiance. Alors, il y a des personnes qui ont besoin d'une médiation pour cela. Elles sentent quelque chose, mais elles ont besoin d'une confirmation. Et là, par exemple, tirer un compte, effectivement, avoir un livre de comptes, on tire un compte au hasard, hein, mais en fin de compte, on se rend compte que le compte que l'on a tiré est une réponse, justement, à la question qu'on est en train de se poser. Et on lit dans le texte du compte, on a la réponse à sa question, la confirmation de sa petite voix intérieure et de son intuition. Donc, il ne faut pas hésiter à passer par des médiations, parfois.
Alors, je voudrais vous faire écouter les propos de l'anthropologue Philippe Descola, qui étaient des propos qui ont été tenus au micro de Laura Adler, L'Heure Bleue, à laquelle vous avez d'ailleurs participé il n'y a pas très longtemps, Marie de Wenzel. C'était l'année dernière, en 2020.
Nous déléguons une grande partie de notre imaginaire à d'autres qui le font fructifier pour nous, et c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais parce que précisément, ça nous rend difficile d'imaginer un futur. Mais surtout, quand on compare avec ces sociétés que vous évoquiez il y a un instant, l'imaginaire y est à la fois cantonné aussi par certains types de récits, par des mythes d'origine, etc. Mais en même temps, il est constamment exposé, je pense aux Achuar ou à l'Amazonie ou à la Sibérie, c'est un peu la même chose, constamment exposé à des rencontres fortuites, inopinées, à des changements de perspective, à des ébranlements justement, qui font qu'on doit faire travailler son imagination pour comprendre dans quelle situation on est.
Alors, en écoutant ces propos de Philippe Descola, je me demandais si s'inventer un monde invisible, ce monde imaginaire dont on parle depuis le début de l'émission, c'est pas aussi une forme de résistance à l'imaginaire que, je pense par exemple à Hollywood ou Netflix nous impose, Marie de Wenzel.
Oui, sûrement. C'est une forme de résistance. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons, par exemple, accès à un imaginaire qui est en nous, c'est le rêve. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais nos rêves, il y a un imaginaire incroyable.
C'est vrai que n'importe quel scénariste d'Hollywood n'oserait pas mettre en scène les rêves qu'on peut faire.
Mais oui, et nous en avons tous. Le problème, c'est que nous ne nous souvenons pas toujours de nos rêves, mais nous rêvons. Et les rêves, c'est d'un imaginaire incroyable. Et il y a vraiment dans l'écoute du rêve. Alors, il y a une technique qui est l'imagination active. Ça, c'est Jung, travaillait à partir d'un rêve. On va plus loin que le rêve. On imagine autour des symboles du rêve. Hein. C'est-à-dire, on agrandit le rêve. Et là, on est en contact avec un imaginaire qui est pas n'importe lequel, qui est le sien. Hein. Vous avez un imaginaire, j'en ai un, nous sommes à part le rêve, en contact avec notre imaginaire.
Nicolas Nedelec, sur cette idée de résistance.
Oui, je crois que c'est quelque chose qu'il faut cultiver, justement, puisque, comme Marie de Wenzel l'indiquait tout à l'heure, les enfants sont naturellement sensibles à cette dimension poétique du monde, ils ont cette sensibilité, cet accès à leur imaginaire. Pour eux, ils s'adressent aux arbres, ils s'adressent à tout, au monde entier, comme s'il s'agissait d'être vivant face à eux. C'est un peu ce que d'ailleurs Philippe Descola évoque dans sa rencontre avec les Achuar, puisqu'il parle d'un monde vivant qui est finalement, qui sont d'autres nous-mêmes, mais différents. Ce qui est également intéressant par rapport à la notion d'altérité, au besoin aussi de se confronter à des êtres différents qui nous complètent. Mais si je continue sur cette idée de cultiver l'imaginaire, c'est cultiver un regard poétique sur le monde, sur la vie, être à l'écoute de nous-mêmes, de nos rêves, et par le biais des récits, ce qui me tient à cœur bien sûr, nourrir et encourager cet imaginaire qui est si important.
Vincent Joly.
Oui, ça me faisait penser, j'associe un peu à ce que vous disiez, chez les enfants, on voit beaucoup d'enfants qui sont dits agités, ou on dit même hyperactifs, bon, peu importe les termes qu'on met sur le phénomène, c'est des enfants qui justement ont très souvent du mal à rêver, du mal à produire un imaginaire, et qui sont dans une sorte d'agitation, d'instabilité motrice, comme ça, parce que, ce qui ne peut pas se penser à l'intérieur de soi, finalement, ça finit par se manifester dans le corps et dans un corps qui ne peut pas se poser. Ce qui veut dire aussi, par ailleurs, que le fait d'avoir ce monde interne, d'avoir un monde à soi qui soit le plus vaste possible, le plus riche possible, ça permet de se poser, ça permet d'avancer dans la vie.
Tu connais le boulet.
Oui, et ça va complètement. La résistance, c'est la résistance au remplissage actuellement. Mmh. C'est-à-dire que l'imaginaire ne peut pas se développer, ne peut pas prendre sa place dans un timing qui serait complètement contraint. Et alors moi, c'est mon dada, mais c'est l'histoire du jeu libre. Là, on va être dans une période de Noël, ils vont recevoir des jouets, etc. Bon. Mais il y a des jouets qui permettent l'imaginaire. Poser ses Playmobil, ses Lego et s'inventer un monde, c'est pas la même chose que d'avoir un jouet tout fait, contraint, qui ne va pas laisser la place à l'imaginaire. Et donc, que ce soit enfant et adulte, on est dans une société du remplissage. C'est-à-dire que dès qu'on a un, regardez, on est dans une file d'attente, plus personne ne sait attendre dans une file d'attente sans regarder son portable, son machin. Et en fait, la résistance, je pense qu'elle est là. Elle est à résister, à remplir chaque instant de notre temps familial et justement s'offrir des plages de rien. Sans ces plages de rien, l'imaginaire, il peut pas exister.
Sur franceinter.fr, Violette nous dit « Je voyais les vieux parler seuls comme les petits-enfants. On se dit qu'ils décabanent, mais j'ai essayé. On ne parle pas si seul et c'est plutôt doux de se raconter la vie, de parler aux absents, morts ou vivants. C'est doux de se laisser douter et enfin y croire. » Geneviève nous dit « Le merveilleux pour moi, c'est d'écouter mon corps, ajuster mon quotidien et vivre en bonne harmonie et de plus en plus. » RPA qui nous dit « Les artistes ne sont-ils pas des traducteurs de ses ressentis ?» Et puis ce message d'Isor qui nous dit « Ma fille a perdu son grand-père, mon père, à l'âge de 3 ans et demi. Et 2 semaines plus tard, je l'ai trouvée assise au pied d'un pommier dans notre jardin. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a juste dit qu'elle parlait avec papy. Je lui ai demandé si elle le voyait. Elle m'a répondu que non, mais elle discutait avec lui et l'entendait très bien, très directement, et elle semblait apaisée. » On s'intéresse ce matin aux forces de l'esprit, ce monde invisible que vous sentez ou pas. Et on attend toujours vos réactions, vos questions, vos sensations aussi. 01 45 24 7000 ou sur l'appli de France Inter. You and Me, c'est le nouveau single des Britanniques de Algie, dont le prochain album est attendu, et même très attendu. Il devrait sortir, il sortira, en février prochain.
France Inter. Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Un grand bien vous fasse consacré ce matin à l'invisible, à l'imaginaire, avec trois invités. Nicolas Nedelec, rédacteur en chef de la revue La Grande Oreille, Vincent Joly, qui est psychologue pour enfants et adolescents, et Marie de Henzel, psychothérapeute, psychanalyste et écrivaine. Et puis Gwenaëlle Boulet, rédactrice en chef de Pomme d'Api, est également avec nous. Il y a quand même un risque aussi, Marie de Henzel, à trop vouloir frayer avec l'invisible.
Absolument. Ça peut être dangereux. Le lien avec l'invisible, c'est un lien où l'invisible vient vers nous. Le rêve vient vers nous, la petite voix intérieure vient vers nous, l'intuition vient vers nous. Là, il n'y a pas de danger. Par contre, il y a des gens qui cherchent
à imposer,
qui cherchent à manipuler l'invisible, à aller vers l'invisible. Et là, je prends l'exemple, par exemple, de gens qui font tourner des tables ou qui interrogent, par exemple, les morts par des. Là, on va vers.
Oui, et là, c'est un business douteux.
Oui, puis c'est une piste qui est très très dangereuse. Il faut juste être, je dirais, l'invisible vient vers nous naturellement, l'accueillir, mais pas aller vers. Pour moi, c'est ça la limite.
Vincent Joly.
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est vrai que, surtout, on a vu là, en cette période de Covid, et toutes les angoisses que ça a pu susciter, à raison, on a vu une résurgence très importante des phénomènes sectaires, d'emprise, etc., qui sont, ben voilà, une manière de. C'est-à-dire que la question que se posent les gens qui cherchent est intéressante, mais la réponse qui est trouvée est extrêmement dangereuse. Et elle l'est d'autant plus que c'est des gens qui sont souvent en détresse, en quête de sens, qui vont s'offrir pieds et poings liés à des personnes qui pourraient ne pas être très sincères et dans une quête beaucoup plus matérialiste et financière, justement.
Alors, on se posait la question en début d'émission de la croisée des chemins, celle que décident de prendre les héros dans les contes. Mais c'est vrai que finalement, la question qu'on se pose peut-être tous, c'est comment croiser les êtres rationnels que nous sommes avec cet invisible, Nicolas Nedelec.
Oui, eh bien, je crois que, en fait, on marche sur deux jambes et qu'on a besoin de cet équilibre entre les deux jambes. Si on met trop du côté de l'irrationnel, on tombe dans les excès dont on vient de parler. Si on est trop sur le côté rationnel, eh bien, sans doute, on a l'impression d'une vie, eh bien, qui s'assèche, comme dans un désert. Donc, on se prive d'une source intérieure, mais également qui provient d'un imaginaire collectif. Et en mettant les deux en résonance, l'imaginaire collectif, je dirais, ou plusieurs imaginaires collectifs, puisqu'il est très nourrissant de s'intéresser aux imaginaires d'autres cultures, bien sûr, et nos imaginaires singuliers, eh bien, tout en gardant évidemment nos esprits rationnels, je crois qu'il y a déjà beaucoup à faire en jouant sur ces trois aspects.
Alors, quand on parle de monde invisible, il y a une phrase qu'on ne peut pas s'empêcher d'écouter, elle est dans un conte très célèbre.
Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret.
Le petit prince s'en fut revoir les roses, comprit que la sienne était unique au monde. Puis il revint vers le renard.
Adieu.
Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose.
Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose.
Je suis responsable de ma rose.
Voilà, Le Petit Prince, lu par Gérard Philippe, qui est l'un des livres les plus traduits au monde, et donc ce livre qui finalement évoque évidemment la construction de ce Petit Prince, mais aussi ce lien avec l'imaginaire, avec l'invisible, qui trouve une résonance universelle, Marie de Henzel.
Oui, d'ailleurs, je l'ai cité dans mon livre, hein, c'était effectivement... Mais j'ai terminé mon livre avec un éloge aux non-voyants. Les non-voyants sont dans l'invisible. justement. Et la dernière phrase de mon livre, qui est celle d'un non-voyant célèbre, qui est Hugues de Montalembert, qui a reçu une projection d'acide dans ses yeux lors d'un cambriolage et qui est devenu aveugle et qui écrit des choses magnifiques sur ce que vit un aveugle. Il dit ça. Il dit l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est-à-dire on ne voit bien qu'avec le cœur. Et lui, il le vit. Hein, là, je pense que c'est quelque chose que nous sentons tous. Hein, et c'est peut-être justement l'amour est le grand mystère. Pourquoi est-ce que on aime quelqu'un? Hein, bien sûr, il y a des tas de raisons rationnelles. Hein, enfin, dire, mais au fond,
chimique même et organique aussi.
Organique, mais pourquoi est-ce qu'on va perdre effectivement du temps pour quelqu'un? Ça, c'est un grand mystère. Et c'est bien que ça le reste.
Est-ce que c'est pas aussi, finalement, cet invisible qui renvoie à la part de l'humain qui n'arrive pas à tout maîtriser? On le voit bien, là, précisément en ce moment. Hein, cet invisible, ce mystère qui serait comme une sorte de réponse aux questions où on délègue presque.
C'est-à-dire, on délègue, je sais pas ce que vous voulez dire par on délègue, mais...
L'idée que c'est une réponse qu'on n'aura pas de toute façon, donc oui. on la délègue au mystère, à toi de te débrouiller avec ça.
Oui, mais je pense que, vous savez, de toute façon, la toute-puissance, justement, peut-être la toute-puissance infantile, on croit qu'on peut tout maîtriser, mais la vie nous apprend que, à travers les épreuves, que nous ne maîtrisons pas tout, et loin de là. Mais justement, peut-être qu'on peut s'adresser aussi à un invisible, quand on est dans la détresse, le désespoir. C'est ce que j'ai observé pendant le confinement. Alors, j'étais en plateforme de soutien de personnes seules, très très seules, et qui m'ont dit qu'elles avaient tenu le coup parce qu'elles s'adressaient à un père, une mère, un conjoint qui était parti, hein, en lui demandant protection. Donc on voit bien que c'est ce besoin d'aller chercher au-delà de soi, hein, et on ne cherche pas à comprendre pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne.
Nicolas Nedelec.
Oui, je crois que, effectivement, imaginer, au fond, puisqu'on a parlé énormément d'imaginaire, imaginer, c'est le mot image, donc on parle d'image intérieure. Et donc, apprendre à créer des images mentales, à les visualiser, c'est un exercice qui est salutaire. Et voilà, je pensais que c'est important de parler de cette notion d'image mentale, puisqu'on est dans des sociétés où on nous impose beaucoup d'images qui viennent de l'extérieur. Donc, arriver soi-même à créer ces images mentales, à cultiver cette capacité extraordinaire que l'être humain a, c'est une façon de résister, et de résister aussi à ce qui nous brime, et c'est ce qui est aussi important dans la période actuelle.
Mais donc, y croire ou pas, vous l'avez dit, finalement, c'est pas la question, Marie
Wenzel. Non, c'est pas la question, c'est le vivre.
C'est ce qu'on en fait.
Oui, c'est le vivre, finalement.
Vincent Joly.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est très important de pouvoir être, de pouvoir s'autoriser à vivre les expériences qu'on vit. C'est-à-dire que dès lors que il y a un rapport au monde que l'on expérimente, eh bien, de fait, ça a lieu. Et je dis ça, ça paraît aller de soi, mais en réalité, on se rend compte que très souvent, chez les adultes, chez les adolescents, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, eh bien, toute une part qu'on va mettre de côté, mettre à la poubelle. Et parfois même, on va en psychothérapie en espérant mettre à la poubelle cette part de soi qu'on ne veut pas, qui nous gêne, qui nous dérange. Ah bon, on va aller chercher dans la corbeille en tant que thérapeute.
C'est-à-dire, il faut la garder, il faut l'accepter, cette part-là?
Ben oui, parce que comme c'est à l'intérieur de nous, de toute façon, couper un bout de soi-même pour le jeter à la poubelle, ça ne va pas marcher, en fait. Donc, de toute façon, on est bien obligé de faire avec.
Comme le disait Nicolas Nedelec, nous avons deux jambes et il faut savoir marcher avec. Eh bien, merci tous les quatre d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui dans Grand Bien Vous Fasse. Cette émission peut se réécouter où vous voulez, quand vous voulez, sur franceinter.fr bien sûr, mais aussi sur la plupart des plateformes de podcast. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain à 10h pour une émission consacrée au chant. Alors on chante sous la douche, on chante en faisant la vaisselle, on chante en faisant l'amour, pourquoi pas, on chante en chorale. Pourquoi chanter nous fait du bien? On attend déjà vos réactions, vos commentaires, vos chansonnettes aussi sous forme de notes vocales sur l'appli de France Inter.